Paris, malgré l'omniprésence des écrans, le 21e siècle sera celui de l'audio sous toutes ses formes, avec la voix au premier plan.
Chantal Laureau.
Bonjour Mathieu Gallet.
Bonjour Chantal Laureau.
Ancien président de l'INA, puis de Radio France, vous avez fondé il y a un peu plus d'un an une start-up, la plateforme de podcast Magellan, et vous venez de publier Le nouveau pouvoir de la voix aux éditions Débat Public. Ce livre, vous l'avez terminé, je crois, au mois de mai. Est-ce que la période de confinement et la crise du coronavirus vous ont conforté dans l'idée qu'on était entré dans une nouvelle ère, l'ère de la voix ?
Alors j'ai vu effectivement la confirmation de cette intuition, enfin c'est plus qu'une intuition puisque vous l'avez dit, j'ai présidé pendant 4 ans Radio France et j'avais bien vu ce qui était en train de se passer autour de l'audio, autour de la voix depuis les années 2014-2015 avec les podcasts et on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est vrai que cette période de confinement et jour en fait le livre avec ce constat, on a tous eu besoin de se parler au moment où on était tenus loin les uns des autres. Moi, j'ai passé ces 8 semaines de confinement sur le bassin d'Arcachon et je voyais par la fenêtre de ma maison les gens qui se parlaient au téléphone, qui s'envoyaient des notes vocales, vous savez, ces SMS audio dont les jeunes raffolent, mais pas que les jeunes. Et je le raconte, il y a eu un article du mois d'avril dans le New York Times où les différents opérateurs télécom américains ont vu exploser littéralement les appels, si bien que je crois que c'est un des vice-présidents de AT&T qui dit « Voice is the new killer app ». Alors, c'est difficile à traduire en français, mais voilà, la voix, c'est devenu l'élément essentiel, l'élément qui tue, en fait, au sens de l'application qui tue.
Pendant le confinement, la voix au téléphone est souvent devenue donc le seul vrai contact avec l'extérieur.
Oui, je le raconte aussi. C'est un de mes amis qui participe bénévolement à la réserve de la citoyenne de la Croix-Rouge. Les 15 premiers jours, son job, son boulot était d'appeler des personnes isolées pour prendre de leurs nouvelles, pour avoir ce lien humain aussi qui est porté par la voix pour que, en fait, cette distance physique dans laquelle on était soit quelque part rapetissée par le lien, par la voix. Donc vraiment ce côté très humain de la voix, très chaleureux qu'on a vu revenir à l'occasion du confinement.
Et on a vu de belles initiatives aussi prises par les comédiens par exemple.
Oui, au Théâtre National de la Colline, les comédiens lisaient au téléphone des textes à la demande aux spectateurs qui ne pouvaient plus aller au théâtre.
Qu'est-ce qui passe à travers la voix d'après vous?
Alors l'imaginaire, je pense que vraiment c'est une des forces de la voix. On imagine, là, les auditeurs qui sont en train de nous écouter doivent s'imaginer voilà à quoi ressemble notre studio, comment on se comporte à travers une voix. On imagine un physique, on se fait une mise en scène aussi. Je crois que moi j'ai beaucoup lu quand j'étais ado de théâtre et j'aimais ça parce qu'en fait je me faisais mes propres mises en scène et mon rapport à la radio et du même acabit. C'est-à-dire que vraiment, je m'imaginais les scènes dans un studio de radio. Donc, je pense que cette question de l'imaginaire est très présente, très positive. Je l'explique aussi pour les enfants, notamment pour l'éveil des enfants, alors que l'écran a plutôt tendance, l'image, à enfermer notre capacité à imaginer. Puis, la voix, c'est la nuance. Ce que je peux dire en ralentissant, en mettant plus de chaleur dans le timbre, c'est le second degré. Bon, le nombre de fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, où en fait un texto on vous envoie et si on met pas un emoji à côté, on le prend au premier degré. Et parfois, ça peut provoquer des catastrophes. Avec la voix, avec un message vocal, on entend le second degré, on entend l'humour noir, on entend toutes ces nuances. Donc ça, je pense que c'est quelque chose aussi de très spécifique à la voix. C'est vraiment l'art de la nuance, la voix.
Et quelles sont les voix radiophoniques qui vous ont bercé, vous, quand vous étiez plus jeune, hein ?
Alors, moi, j'ai vraiment été bercé par les voix de France Inter que j'écoutais quand j'étais à Sciences Po Bordeaux comme étudiant. Donc, évidemment, Pascal Clark, Marc à l'époque où elle faisait la revue de presse. La voix de Pierre Bouteiller, c'était la génération avant, mais aussi, bien sûr, le pop club de José Arthur. Macha Béranger, voilà, les soirées, les nuits avec Macha. J'ai eu la chance en 97 ou 98 de pouvoir venir assister à une de ces émissions à la Maison Ronde. Voilà, donc c'est toutes ces voix qui m'ont bercé, dont je me souviens encore.
Vous, à Magellan, vous avez aussi noté un bond de fréquentation?
Oui, alors c'était une des bonnes surprises. Il en a fallu quelques-unes pendant ces semaines de confinement. C'est qu'on a vu un vrai bond de plus de 30% de la fréquentation de notre application lors de la première version de l'application, puisqu'on vient de changer de formule. Et avec un constat, c'est que les gens écoutaient vraiment tout au long de la journée. Il n'y avait plus les pics qu'on peut constater le matin, le soir, qui sont les pics traditionnels sur une plateforme de podcast. Et puis après, les sujets, tous les contenus, tous les programmes liés à la santé, évidemment, tous les programmes liés à l'éducation aussi, ont bien marché. Tout ce qui était un peu plus anxiogène, comme les histoires criminelles, marchait moins bien qu'en temps normal.
Alors à propos de Magellan, vous en parliez à l'instant, vous avez changé de formule, vous avez changé à la fois la ligne éditoriale et le modèle économique de votre plateforme. Qu'est-ce qui n'a pas marché ?
Alors Magellan, depuis le début, depuis le mois de juin 2018, c'est une application, donc on télécharge sur son téléphone portable, qui donnait accès dans sa première version à la fois à des contenus libres, qui sont les podcasts avec les émissions de radio en rattrapage, mais aussi tous les podcasts natifs.
Et on vous a reproché ça d'avoir agrégé des podcasts que vous n'aviez pas produits.
Agrégé, alors sauf que effectivement la technologie le permet, et donc nous avons fait finalement ce que toutes les plateformes d'agrégation, que ce soit Apple ou Podcast Addict, font. On ne monétisait pas du tout cette partie-là, et en revanche, les créations originales donc faites dans les studios de Magellan, elles n'étaient accessibles que par un abonnement de 4,99€ par mois.
Alors qu'est-ce qui n'a pas marché?
On a gardé que la deuxième partie, parce qu'en fait, on a vu qu'on avait deux publics sur la plateforme. Un public qui écoutait gratuitement les contenus de rattrapage et qui passait peu sur les contenus payants, et un public du payant qui tous les mois était plus nombreux, puisqu'on avait une croissance d'environ 30% de nouveaux abonnés par mois, qui n'écoutait pas les programmes gratuits de l'agrégation. Et donc, quand vous êtes une start-up, vous pouvez pas être à la fois à un endroit et à un autre. Il faut être focus, comme on dit. Donc, il faut être vraiment complètement concentré. Et donc, nous, évidemment, on s'est concentré sur ce qui crée la valeur de Magellan, c'est-à-dire la création originale. Et c'est ce qui est aussi notre business model, puisque on ne vit que de ses abonnements. Et donc, comme vous l'avez dit, on a fait un deuxième recentrage qui est éditorial. L'an dernier, on avait produit des programmes de fiction, des programmes comme des contes pour enfants, des lectures, puisqu'on avait fait le Magellan de Stefan Zweig, lu par Charles Berling. On a fait des programmes de coaching aussi, qui ont bien marché, et on a vu finalement que tous les contenus qui étaient liés au réel, donc qui étaient beaucoup plus proches du réel que de l'imaginaire, marchaient mieux. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette nouvelle plateforme Magellan, qui est 100% dédiée à des voix inspirantes et apprenantes. C'est-à-dire, c'est vraiment des grandes voix qui vont nous apprendre quelque chose, qui vont nous inspirer de par leur exemple ou leur expérience.
Et cela donne des masterclass, comme celle de la chef étoilée Anne-Sophie Pic, ou encore celle du réalisateur Michel Hazanavicius.
And the Oscar goes to Michel Hazanavicius.
Je ne sais pas si ça vous est interdit, mais ça vous est totalement étranger, quoi. Et ça vous semble impossible, et vous avez toujours l'impression de dire « mais moi, je connais personne, et tout ça, c'est pas pour moi, et tout ça. » Et donc, la chance m'a amené à ce que le truc soit possible. Il y a un moment où vous vous décontractez, et encore une fois, vous pardonnez, quoi. Bon, peut-être avec le fait d'avoir 5 Oscars aussi, je ne sais pas, mais...
Bonjour, je suis Anne-Sophie Pic, chef étoilée, notamment à Valence, et vous écoutez ma masterclass sur Magellan.
Épisode 1.
Je crois qu'en fait, l'enfance est un moment de découverte et d'émotions intenses, c'est-à-dire que peut-être qu'on voit les choses sans finalement qu'elles nous touchent particulièrement au moment où on les voit, mais quelques années plus tard, elles prennent tout son sens. Et peut-être qu'on fait les choses, on a l'impression qu'elles viennent de nous, mais finalement, c'est une transmission qu'on a pu recevoir, et on continue juste l'œuvre de celui qui nous a précédé. Enfin, il me semble que c'est un peu ça. Vraiment, le lien premier avec les plantes, je m'en souviens, j'ai cette image très très forte pour toute ma vie. C'était quand j'étais enfant, mon grand-père maternel avait un jardin potager et un jardin d'aromates. D'ailleurs, il a provisionné la cuisine de mon papa. Donc, quelquefois, les cuisiniers allaient rebéranger, donc à Valence, chercher les aromates qui leur manquaient. Donc, de toute façon, la cuisine, c'est toujours une histoire de famille.
On a entendu épisode 1 pour la masterclass d'Anne-Sophie Pic. Ses parcours inspirants, entre guillemets, sont déployés comme une série.
C'est exactement ça. C'est toujours un programme sous forme de plusieurs épisodes et on suit la logique du maître ou de la maîtresse, du master en anglais, dans cette progression de entre 5-6 épisodes environ, qui font entre 15 et 30 minutes selon les épisodes.
Donc c'est tout l'inverse du zapping. Là, on prend le temps d'approfondir.
On est dans l'inverse de l'immédiateté, on n'est pas dans l'actualité, on est dans du contenu, on pourra l'écouter dans un an, il aura la même valeur. L'idée, c'est vraiment de créer un catalogue de voix inspirantes qui vont... Moi, j'ai écouté Anne-Sophie Pic pas plus tard que ce matin, j'ai fini d'écouter les deux derniers épisodes. Cette femme a un parcours extraordinaire, une femme chef 3 étoiles dans un monde qui est très masculin, héritière d'une lignée de grands chefs, mais elle-même pas du tout formée à cela et pas du tout préparée à reprendre, puisqu'elle était partie, elle a fait des études de commerce. Et comment elle vous raconte la suite du succédé à son père qui est décédé brutalement, comment ils ont perdu leur 3e étoile et qu'il a fallu la reconquérir, comment elle a fallu se réinventer tout en respectant la tradition familiale, comment on est une femme dans un milieu qui est très masculin avec tout ce que ça peut avoir de négatif aussi, comment elle crée une entreprise avec son mari, puisque c'est un couple qui vraiment fonctionne comme deux partenaires. En tant qu'entrepreneur, moi, elle m'inspire dans son management, dans la façon dont elle fait travailler les équipes ensemble, et en tant que créatrice, puisque c'est une créative, elle m'inspire aussi sur des sensibilités, des influences qu'il faut pas avoir peur de s'approprier pour soi-même, en fait, réinventer quelque chose. Donc c'est vraiment, on est dans la promesse de Magellan, c'est à la fois inspirer et en même temps être utile. On a envie que ces voix qu'on entend sur Magellan, elles aient un impact sur la perception, sur la vie de nos auditeurs.
Mais quel est le plus de Magellan? Parce que vous n'êtes pas la seule plateforme à produire des podcasts. Beaucoup de radios aussi, d'ailleurs, produisent des podcasts. Et même des podcasts natifs. Donc, ces podcasts qui sont réservés uniquement...
aux plateformes.
Voilà, aux plateformes.
Alors, le plus, c'est déjà une éditoriale unique avec cette idée de la transmission et de l'inspiration.
Feed Your Soul, c'est
oui,
aussi votre
credo. Feed Your Soul, c'est notre signature. Donc, on est là vraiment pour se nourrir... l'invention, nourrir la créativité, l'imaginaire. On est toujours dans une production en plusieurs épisodes. Et chez nous, il n'y a pas une émission qui est récurrente comme sont la plupart des podcasts gratuits où, en fait, vous revenez tous les 15 jours ou une fois par mois. Et on est sur du temps long. C'est vraiment, on prend le temps chez Magellan. L'idée, c'est que les choses restent et qu'il y ait cet impact. Et je pense que vraiment, on souhaite aider les uns les autres à être mieux avec soi-même, à être mieux avec les autres, à comprendre le monde qui nous entoure. Et le comprendre le mieux, c'est aussi par l'exemple et par l'expérience des autres.
Viens ce jour. Oh. sans jamais avoir basculé. Les jeux interdits, ton humour abstrait me font toujours autant d'effets.
Que veux-tu, Brigitte, sur RFI dans De Vive Voix. Mathieu Gallet, c'est vous qui avez choisi cette chanson. Qu'est-ce qui vous séduit chez Brigitte ?
C'est un duo très sexy, je trouve.
Et
c'est
Sylvie Ouaro et Aurélie Saada.
Voilà, et c'est une chanson qui est très sexy. C'est une chanson pour l'été, ça tombe bien, on est en été.
Alors, on va revenir au nouveau pouvoir de la voix. Les podcasts ont permis ce retour au premier plan de la voix, mais on assiste également depuis quelques années à un engouement pour l'art oratoire, avec des concours d'éloquence, par exemple. En France, vous rappelez qu'on a arrêté en 1902 d'enseigner à l'école l'art oratoire, la rhétorique. C'était une erreur, d'après vous ?
C'était probablement la fin d'une époque, puisque l'art oratoire tel qu'on l'enseignait jusqu'en 1902 était lié à l'enseignement des humanités, qu'on me disait à l'époque, donc aux langues anciennes, au latin, au grec, et c'était très lié effectivement aux grands orateurs latins. Bon, on s'en souvient pour ceux qui ont fait du latin, ce qui est mon cas jusqu'en terminale, voilà, les discours de Cicéron notamment. Et donc je pense que en voulant moderniser, on a mis en fait de côté ce travail de l'art oratoire en oubliant que finalement c'était quelque chose qui n'était pas élitiste, hein, ou en tout cas qu'on peut avoir une approche non élitiste de l'art oratoire, parce que l'art oratoire, c'est ce que j'explique dans le nouveau pouvoir de la voix, c'est la maîtrise de la conviction. Parce que quand on sait bien s'exprimer à l'oral, on sait être convaincant. Ça vous sert tout au long de votre vie.
Dans un entretien d'embauche, défendre un projet d'entreprise.
Exactement. Quand moi, mon père était commercial, quand voilà, vous avez besoin de vendre un produit. Moi, quand j'ai créé Magellan avec Arthur Perticos, mon associé, qu'on est allé voir des investisseurs, il fallait les convaincre qu'on notre vision était juste. Et donc, cette maîtrise de l'art oratoire, c'est quelque chose qu'on doit enseigner à tous les enfants. Et j'ai toujours été assez étonné de voir la différence entre des petits Américains et des petits Français. C'est-à-dire que les petits Américains, très tôt à l'école, on leur apprend à faire des présentations orales. Ce qui fait qu'ensuite, quand vous voyez les Américains, ils font toujours le show, ils font toujours un spectacle. Alors, le fond, je n'en juge pas. Mais en tout cas, sur la forme, il y a cette volonté de convaincre. Alors, vous rappelez de Steve Jobs, qui a été évidemment le modèle des shows de présentation d'Apple, tous les ans. Mais parce que les petits Américains sont vraiment comme ça. Et je suis très heureux de voir que dans la réforme du baccalauréat pour l'année prochaine, on intègre un grand oral. Et donc, on va enfin faire revenir cette maîtrise de l'art oratoire dans la pédagogie pour tous.
Et vous soulignez aussi qu'outre-Atlantique, les battles de rap ont contribué au développement des techniques d'expression orale, à la démocratisation en fait de l'éloquence.
Oui, alors c'est vrai que les battles de rap, alors ça qui sont venus en France aussi, quand j'étais à Radio France, on en a organisé pas mal avec Move, la radio hip-hop, R&B, en fait, qui est devenue la radio des jeunes, puisque aujourd'hui c'est vraiment toute une génération qui écoute cette musique, et donc on s'était associé effectivement à plusieurs initiative de battle de rap où on est effectivement dans une forme de joute oratoire très je trouve très puissante.
Maintenant que t'es en face de Mastar, qu'est-ce que t'as envie de lui dire?
Bah en fait Mastar, je lui ai envoyé v'là mes sons mais il m'a jamais répondu.
Bah c'est peut-être l'occasion de lui montrer un petit peu ce que tu vaux maintenant, non? Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, on peut essayer. Ouais.
Ok, allez c'est parti, on se trouve maintenant.
Appelle-moi pas short de mon Tipeee. J'ai le regard tout triste depuis que mon daron est type. Or qu'il a lâché ses types sur le terrain malgré mes 12 piges. Quand tous mes potes s'amusent la rue a déjà tué mon enfance, donc n'appelle pas Samy. Maman bosse, son fils bosse, mais c'est pas le même Zéo. J'suis dans le bain, j'vends la drogue, j'me vois ta tête du réseau. Avec mes rayons barreaux, dans les couilles quelques barreaux. Et si tes potes, j'te fais un tarot, j'te tape comme les paros. Et ça fait ouf, ouf, short de mon Tipeee, ouf, ouf, short de mon Tipeee. J'suis dans mon hall et j'rêve d'être sur une plage à MTP. Suffit d'une sirène et ta vie change en une heure. J'me revois sur le bord de la prison pour mineurs. Menotté au milieu du Texan parce que j'ai des pilons dans le caleçon. Le bandit a tué le garçon. J'peux te monter en l'air pour un klaxon. Hein? Menotté au milieu du Texan parce que j'ai des pilons dans le caleçon. Le bandit a tué le garçon. J'peux te monter en l'air pour un klaxon. Hein? J'ai compté tellement de zéos que j'en ai des crampes. La rue la vraie pas seulement sur l'écran. Pour ma mère et ma sœur, moi j'veux le meilleur. Et fuck la prison pour mineurs. J'ai compté tellement de zéos que j'en ai des crampes. La rue la vraie pas seulement sur l'écran. Pour ma mère et ma sœur, moi j'veux le meilleur. Et fuck la prison pour mineurs. Et ça fait oui, oui, j'suis de mon Tipeee.
Un extrait de Valider, la série de Franck Gastambide, où le jeune Clément Apache vient dans l'émission Planète Rap sur Skyrock improviser un son sous l'œil de plus en plus noir de Mastar, l'invité du jour. Vous n'avez pas encore vu Valider, Mathieu Gallet?
Non, pendant le confinement, Valider est sorti. Moi, j'attendais avec impatience la cinquième saison du Bureau des Légendes. Et donc, j'ai privilégié le Bureau des Légendes, mais je sais que ça fait partie de ma waiting list.
Mais on peut aimer l'un et l'autre.
Ça fait partie de ma waiting list pour cet été.
Mathieu Gallet, c'est aussi le développement des assistants vocaux comme Siri sur l'iPhone ou Alexa chez Amazon qui est en train d'amener, selon vous, cette révolution vocale?
Oui, avec des applications très concrètes. Il y a quelques semaines, le groupe Carrefour a annoncé un partenariat avec l'assistant Google qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez commander vos courses avec juste la voix. Donc, vous déclinez les yaourts, le lait, la salade et vous passez votre commande qui vous est livrée directement par la voix. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le commerce conversationnel. Et moi, je pense que c'est que le début.
Voilà, c'est en plein essor.
C'est en plein essor.
Vous précisez que le marché mondial de ce commerce devrait représenter 35 milliards de dollars dans le monde en 2020.
C'était les chiffres, en tout cas, donnés en début d'année. Alors, on verra avec l'épidémie de Covid si ça a accéléré ou si ça a ralenti. Mais en tout cas, on voit qu'il y a plutôt eu une accélération de toute la consommation en ligne. Vous parliez de Valider qui a connu des téléchargements formidables sur MyCanal.
Oui, 20 millions en 3 semaines.
On a vu que Netflix a fait péter les compteurs. Nous, on l'a vu sur notre application. Et je pense que beaucoup de gens qui n'avaient pas encore sauté le pas, notamment de l'achat en ligne, du e-commerce, l'ont fait à cette occasion.
Et vous écrivez que nous utiliserons demain autant la voix que nos doigts aujourd'hui.
Oui, c'est pour ça que je parle de l'ère digitale. Alors certains m'ont dit non, en français on dit numérique. Mais non, je dis digital parce que le digital, c'est les doigts. Et que justement, la prochaine révolution, c'est une révolution vocale. Alors qu'aujourd'hui, on est encore en train de chercher en appuyant sur avec ses gros doigts sur un téléphone portable. Et moi, j'ai dédié ce livre à mes deux nièces et à mon neveu qui sont tout petits, mais qui pour eux, je suis persuadé, d'ici 10 ans, quand ils seront ados, trouveront que franchement leur oncle est super ringard de continuer à taper sur son iPhone quand eux auront déjà complètement intégré l'interface vocale avec les assistants personnels et avec tout ce qu'on appelle l'internet des objets.
Et les enceintes connectées.
Les enceintes connectées et l'internet des objets où on pourra lancer son four, éteindre son chauffage avec la voix qui vous reconnaîtra.
Alexa, ajoute que j'ai rendez-vous ce soir.
Bien reçu. Quel jour et à quelle heure?
Aujourd'hui, 18h.
Et quel est le nom de l'événement?
Dîner avec Julien.
Dîner avec Julien est programmé aujourd'hui à 18h. Je viens de l'ajouter.
Mathieu Gallet, Alexa, c'est une voix de synthèse. Où est la dimension humaine, sensible, la charge émotionnelle qui caractérise une vraie voix?
Alors, elle est quand même voix de synthèse qui est assez troublante dans la ressemblance. Et je pense que plus on va avancer et plus, effectivement, on va arriver à donner à cette intelligence artificielle une capacité humaine. Vous vous rappelez du film Her, où, effectivement, le personnage principal tombe amoureux en fait de son intelligence artificielle, tellement la voix et au-delà de la voix, l'interface avec la voix ressemble à une personne. On appelle ça l'effet Elisa. D'ailleurs, c'est Aurélie Jean, la spécialiste des algorithmes, qui l'explique dans un programme de Magellan qui s'appelle Algopop, où elle nous explique en fait toutes les implications des algorithmes dans notre vie quotidienne en l'illustrant par des exemples de la pop culture, donc des films ou des séries télé.
Mais il vous fait rêver ce monde-là, parce que vous ne parlez pas du côté intrusif des assistants vocaux, parce que ce sont quand même des espions à la maison.
Il y a un vrai côté intrusif. Je ne sais pas s'il est là pour nous faire rêver. En tout cas, il est une réalité, et à nous de savoir travailler avec, d'en prendre le meilleur parti, et de faire attention, comme toujours, avec les mauvaises parties de ces changements technologiques.
Alors, dernière question par rapport à la radio et l'avenir de la radio. Est-ce que le podcast ou la création de contenu audio narratif représente une menace pour la radio? Est-ce que les radios généralistes sont condamnées à disparaître?
Je pense que les plateformes comme Spotify, par exemple, sont aujourd'hui une menace pour les radios, comme Netflix est une menace pour les chaînes de télévision classiques. Probablement pas pour les moments de matinale où on est dans un moment chaud d'actualité, mais tout le reste de la journée où là effectivement on va avoir une consommation à la demande, et les plateformes comme Spotify connaissent de façon très précise les habitudes de leurs utilisateurs, et donc vont pouvoir faire des recommandations très précises en fonction de vos goûts, de vos humeurs, de vos moments disponibles. Et je pense qu'effectivement il y a une vraie menace pour les radios, notamment d'un point de vue économique, puisque Spotify a décidé de financer cette partie podcast par de la publicité. Et donc là, ça va être une vraie menace sur les recettes commerciales des radios.
Donc si elles veulent survivre, elles vont devoir s'adapter comment, les radios?
Elles vont devoir s'adapter par la mise en place en fait de plateformes, et le fait que aujourd'hui, on peut être à la fois une radio en continu, en flux, en FM traditionnel, et en même temps, on doit être une plateforme numérique, souvent sous forme d'application, puisque c'est la force de l'audio, c'est vraiment l'accompagnement et la mobilité, et qu'aujourd'hui ça se passe sur un téléphone portable. Moi, c'était ce que j'avais cherché à développer à Radio France, et je pense qu'il faut continuer à le faire, de se dire, il y a d'un côté le live pour le matin, pour le soir, et tout le reste de la journée, d'avoir une approche très personnalisée, et ça passe par le développement d'une plateforme du type, effectivement, de celle de Magellan.
Donc le mot-clé, c'est personnalisation, répondre à la demande.
Oui, personnalisation, ce qui ne veut pas dire que derrière, on ne peut pas pousser des contenus qui ouvrent, on ne va pas s'enfermer dans une bulle non plus, mais je pense que vraiment la personnalisation, c'est absolument nécessaire, et c'est là où le numérique a un apport évident par rapport au monde analogique.
Merci beaucoup Mathieu Gallet d'avoir été notre invité. Votre livre Le Nouveau Pouvoir de la Voix est paru aux éditions Débat Public. Merci à Joé Fonferrier qui a réalisé cette émission, et à Yael Co qui m'a aidé à la préparer. Demain, on change d'univers. Le chanteur Timdup sera notre invité.